franceinter.fr.
Mourir de faim, avoir la dalle, manger comme un cochon ou avoir les crocs, amusez-vous à chercher des expressions populaires en rapport avec la faim et vous en trouverez de très nombreuses. Et cette variété des mots de la faim montre à quel point la pulsion de faim a un impact très important sur nos vies et sur notre expérience alimentaire. C'est cet après-midi le dossier de la tête au carré pour comprendre donc les mécanismes physiologiques qui sont en jeu dans la faim. Et j'attends dès maintenant vos messages et vos questions sur franceinter.fr et sur les réseaux sociaux avec le mot-clé l'attaque. À la une de la science, aujourd'hui on va sortir la palette de couleurs pour comparer la qualité nutritionnelle des aliments. Axel Villard, bonjour.
Oui, bonjour Mathieu. De petites pastilles de couleurs pourraient bientôt apparaître sur l'emballage des aliments dans les supermarchés. Mais pourquoi des pastilles plutôt que des carrés ou des smileys? On en parle dans un instant avec nos invités et vos questions sur Twitter pour la une.
Tête au carré réalisé par Stéphanie Texier avec un dossier préparé aujourd'hui par Lucie Sarfati avec Margot Dullard.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Les mécanismes de la faim, donc, dans le dossier de la tête au carré cet après-midi avec vous. Marie Thirion, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes médecin et pédiatre et puis nous sommes également en duplex des studios de France Bleu Bourgogne à Dijon avec vous. Benoît Chal, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes biologiste du comportement. Marie Thirion, est-ce que nous avons un réel besoin physiologique de manger, allez, en moyenne 3 fois par jour, ou est-ce que ce rituel est quelque chose de totalement culturel?
On n'a pas de besoin énergétique de manger 3 fois par jour. Par contre, culturellement, nous sommes programmés, enfin pour la plupart d'entre nous, à manger sur ce rythme-là. Et si on essaye de changer de rythme, ce fameux crocodile que vous avez nommé tout à l'heure, mais que j'expliquerai quand même un peu mieux, va lancer des signaux 3 fois par jour.
Oui.
Et si au bout de plusieurs semaines, voire plusieurs mois, vous ne mangez plus que 2 fois, ou au contraire vous mangez 6 fois, il lancera des signaux 2 fois ou 6 fois.
Donc il s'adapte bien ce crocodile finalement.
Il peut s'adapter.
Il prend son temps,
il est assez lourdeau, mais il finit par s'adapter.
Benoît Chal, est-ce que la faim taraude les bébés dès qu'ils sortent du ventre de leur mère?
Alors probablement que le crocodile est tout petit dans le cerveau du nouveau-né et devient un vrai gros crocodile d'Australie chez l'adulte. Et effectivement, il n'est pas aussi mordant au début de la vie et il est très influencé par ce qu'il reçoit de son environnement et en particulier de ce que la mère lui apporte.
Mais on a le sentiment que le bébé réclame à manger toute la journée quasiment, hein.
Est-ce qu'il réclame à manger ou est-ce qu'il réclame le confort des bras de la personne qui prend soin de lui, qui souvent est associé au fait de manger?
Oui.
C'est une question qu'on pourra se poser.
Bon, on va donc nuancer effectivement les choses ensemble dans quelques minutes. Pourquoi avons-nous faim? Question posée dans la tête au carré avec vos messages dès maintenant sur le site de l'émission. Et à la une de la science aujourd'hui, on vous aide à remplir votre caddie.
Véro. Ça, franchement, ça va, c'est bon.
Écoute, si t'as envie de te boucher les artères, tu fais ce que tu veux, mais moi, je veux pas de ça chez moi.
Et ça, c'est pas mal, ça, pourquoi on n'a pas le temps?
Mais vous avez aucun respect pour votre corps. C'est pas du poulet, ça, c'est le dent en batterie, ça, c'est bourré d'antibiotiques.
Ouais, enfin, là, c'est moins cher.
Voilà, extrait des petits mouchoirs, aider le grand public à mieux manger, c'est ce que prévoit la loi de santé présentée par Marisol Touraine, loi qui prévoit l'ajout d'un logo sur les produits de grande distribution pour guider le consommateur dans ses choix. Mais quel est le meilleur système? Un rapport du Haut Conseil de la Santé publique publié lundi semble avoir fait son choix. Et pour en parler, nous sommes avec vous, Chantal Julia, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin nutritionniste et enseignante-chercheur à Paris 13. Et puis Didier Jourdan, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de la commission prévention du Haut Conseil de Santé publique et vous êtes en duplex des locaux de France Bleu Pays d'Auvergne. Didier Jourdan, à quoi vont servir donc ces futurs logos dont la future forme n'est pas encore totalement tranchée, je crois, hein?
Ils correspondent à la fois à une demande des consommateurs et à un vrai enjeu de santé, c'est-à-dire le fait que lorsque vous êtes dans les rayons d'un supermarché avec votre chariot, que vous choisissez entre différentes pizzas, eh bien, vous choisissez sur la base du prix, du goût de la pizza, de la marque, de la publicité. Et là, l'enjeu, c'est d'avoir un système qui puisse permettre à chacun d'intégrer dans son choix la qualité nutritionnelle. Vous savez bien que dans la vie réelle, on ne retourne pas les produits pour regarder un tableau complexe en petits caractères pour savoir s'il y a plus ou moins de sel. Là, on va offrir à tous les consommateurs la capacité d'avoir une idée de la qualité nutritionnelle de l'aliment qu'ils choisissent et de pouvoir le comparer.
Et Chantal Julia, un seul logo, c'est suffisant pour refléter l'ensemble des qualités nutritionnelles d'un aliment ?
C'est possible, effectivement, de résumer la qualité nutritionnelle d'un produit en prenant en compte plusieurs paramètres à partir d'un profil nutritionnel des aliments. C'est tout à fait possible.
Oui, alors justement, Didier Jourdan, 5 couleurs, hein, c'est ce qui est prévu donc, dans ce rapport rendu par le Haut Conseil. En comparaison des autres systèmes qui sont utilisés en Europe, ça consiste en quoi exactement ?
Alors, il y a 12 systèmes hein, qui sont utilisés à l'échelon mondial. Certains d'entre eux sont basés sur des étoiles, comme nos collègues australiens et néo-zélandais. En fonction du nombre d'étoiles, c'est plus ou moins bon. Dans les pays nordiques, c'est plutôt ce qu'on appelle la clé verte ou des logos qui vont dire bon ou mauvais aliment. Du côté de nos amis anglais, la créativité est importante. C'est des feux tricolores, vert, rouge et orange. L'idée, si vous voulez, c'est de trouver un logo qui puisse parler à tout le monde, et notamment à ceux qui n'ont pas l'habitude de comparer la composition aux glucides, lipides, protides, etc. Et pour parvenir à construire ce type de logo, il faut se baser d'abord sur un classement des aliments et ensuite être capable de produire, de proposer une forme de logo qui puisse parler à tout le monde.
Donc il y a différents critères hein, sur les calories, les sucres, les acides gras saturés, le sel, les fibres, les protéines, etc. Et donc, couleurs qui iront du vert plutôt bon au rouge vraiment moins bon. Axel.
Chantal Julia, vous avez travaillé aussi à comparer ces différents systèmes. Pourquoi ces 5 couleurs, selon vous, sont les plus efficaces ?
Alors, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que parmi les éléments d'efficacité d'un système d'information, il y a le fait qu'il soit unique. C'est-à-dire qu'il vaut mieux qu'il y ait une seule information qui soit délivrée plutôt qu'une information par nutriment. La deuxième raison, c'est qu'effectivement, des couleurs sont plus facilement interprétées par les consommateurs. Et la dernière raison, 5 couleurs plutôt que 3 ou 4, c'est que ça permet de réellement tenir compte de la variabilité nutritionnelle qui existe dans les produits alimentaires.
Ouais. Donc on fait un classement, on fait une moyenne, c'est ça, entre tous ces critères dont je parlais tout à l'heure, entre le sel, le sucre, le gras.
C'est un peu plus complexe que ça, mais c'est pas loin. C'est-à-dire qu'on prend en compte, parmi les éléments qui sont dans le tableau des valeurs nutritionnelles à l'arrière du paquet, on prend ces éléments-là et pour le sel, les acides gras saturés, l'énergie et les sucres simples, on donne 0 à 10 points, ce qui peut aboutir à 40 points quand on fait la somme de l'ensemble. Et ensuite, on retire des points s'il y a des fruits et légumes, des protéines et des fibres. Donc on a un score qui est continu et qui peut aller de moins 15 pour les meilleurs qui n'ont vraiment ni sel, ni sucre, ni rien et que des fibres, des protéines et des fruits et légumes jusqu'à plus 40 théoriquement pour ceux qui sont vraiment...
Pour la mortadelle par exemple, c'est ça, non ?
Non, le 40 n'existe pas en réalité, on ne dépasse pas le 35 parce qu'un aliment ne peut pas être saturé dans l'ensemble de ses éléments.
Une question qui nous vient de Twitter, est-ce que ce score prendra en compte les quantités de pesticides ou d'antibiotiques dans les aliments ?
Alors non, il s'agit d'un score de qualité nutritionnelle, on se limite aux éléments du tableau des valeurs nutritionnelles. On ne peut pas intégrer pour l'instant, il n'existe pas de score qui permette d'intégrer l'ensemble des dimensions d'un aliment. Il y a la qualité nutritionnelle, il y a effectivement la qualité
sanitaire
liée aux pesticides. Il peut y avoir aussi le fait que ce soit un circuit court, il y a la qualité environnementale. Il y a énormément de dimensions finalement dans un aliment, il y a aussi la dimension gustative. Et pour l'instant, il n'existe pas de score qui permette réellement de tenir compte de l'ensemble de ces éléments.
C'est un peu
éléments.
Gênant quand même, non ? Parce que pour le coup, ça peut faire pencher la balance de l'autre côté, non ?
Mais d'un autre côté, laquelle de ces dimensions est-elle la plus importante ? C'est un peu difficile de savoir résumer. Après, on résume vraiment énormément le produit.
Didier Jourdan, la finalité, c'est la lisibilité pour le consommateur, ces logos de couleur.
Oui, c'est ça. Je crois qu'il faut rappeler et toujours mettre en avant que l'essentiel, c'est la liberté des gens. C'est-à-dire que ce n'est pas à l'État ou à qui que ce soit de dire aux gens ce qu'ils doivent manger. La seule chose, c'est qu'il faut arriver à permettre à ce que chacun et chacune puisse disposer des informations. Alors, vous avez raison, la question des pesticides, la question des édulcorants, etc., la question de la qualité environnementale, ce sont des éléments de choix. Mais elles ne sont pas concernées par ce logo. Le logo est centré sur la qualité nutritionnelle. En gros, je dirais que c'est finalement donner les moyens à des gens de choisir, toujours de manière libre. Je rappelle qu'en France, il n'y a pas de mauvais aliments. On ne peut pas classer en deux catégories les bons et les mauvais parce que ce n'est pas vrai. Mais il y a des aliments qui ont des qualités nutritionnelles variables. Mmh. Eh bien, on améliore l'arsenal de chaque consommateur dans son choix sur la qualité nutritionnelle. Mais bien sûr, il faudra qu'il soit attentif, par exemple au fait de savoir si son aliment provient d'un circuit court ou autre, s'il contient tel ou tel type de produit. Il s'agit d'un élément qui améliore, si vous voulez, la capacité de chacun à choisir. Mais bien évidemment, ce n'est en aucun cas et surtout pas une baguette magique.
Allez, dernière question, Axel.
Oui. Chantal Julia, la position de ces logos, c'est dans la loi, sera facultative. Vous pensez que les industriels vont jouer le jeu rapidement ?
Alors, oui, ce sera facultatif parce qu'on n'a pas la possibilité pour l'instant d'imposer un système de façon obligatoire. Oui, j'espère que les industriels pourront rentrer dans ce dispositif et que ça pourra en réalité servir aussi de mécanismes supplémentaires de concurrence où finalement il y a énormément de variabilité, y compris pour des produits qui sont vendus avec la même appellation. Pour un même produit, par exemple, on prend souvent l'exemple des muesli croustillants au chocolat, eh bien, il y en a des 5 couleurs, et ça va du vert jusqu'au rouge. Mmh. On peut espérer qu'un industriel qui voit que son produit par rapport à ses concurrents est suffisamment bien classé ait envie de la poser pour pouvoir justement montrer qu'il a un avantage compétitif par rapport à ses concurrents. La deuxième chose qu'on peut espérer, c'est que justement si ça rentre parmi les critères de la concurrence entre les opérateurs, cela puisse inciter les opérateurs à modifier la composition de leurs aliments.
C'est ce qu'on peut espérer, en tout cas. Ça pourrait être la vertu, en tout cas, de cette imposition, qui serait en fonctionnement à partir de 2016, c'est ça ? Si tout va bien.
C'est Didier qui devrait répondre.
Didier Jourdan ?
Oui, alors vous savez qu'il y a plusieurs étapes. Là, c'est l'étape de la validation scientifique. Ce dispositif est celui qui correspond mieux à la politique de santé française et aux besoins des Français. Dans le courant du mois de septembre, des réunions sont prévues autour de la ministre de la Santé pour trancher. Et on peut espérer qu'effectivement, d'ici la fin de l'année 2015, les premiers industriels se saisissent de ce logo 5 couleurs.
Bon, on les verra donc peut-être fleurir sur les emballages d'aliments. Merci beaucoup, Didier Jourdan et Chantal Julia pour vos explications.
Merci.
Marie Thérion, vous ne parlez pas de nutrition justement dans votre livre. On va parler de la faim avec vous, mais c'est un autre domaine qui nous intéresse et ce sera le dossier dans quelques instants. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, les métaux lourds seraient responsables de l'extinction d'un très grand nombre d'espèces sur Terre. Des chercheurs du CNRS et de l'Université de Lille ont découvert du plancton fossile vieux de 415 millions d'années, présentant une malformation due à la pollution aux métaux lourds, entre autres la présence dans l'eau de fer, de molybdène, de plomb ou encore d'arsenic, qui pourrait être la cause de l'éradication de 85% à l'époque des espèces marines de cette période. Le plus vieux cas de leucémie vient d'être découvert en Allemagne sur un squelette âgé de 7000 ans et présentant une perte osseuse caractéristique de cette maladie. La dépouille datant de l'ère néolithique est celle d'une femme décédée entre 30 et 40 ans. Elle pourrait bien être donc l'un des premiers cas de leucémie de l'humanité, ont annoncé des chercheurs de l'université de Tübingen. Et puis pour terminer justement, l'établissement français du sang lance sa nouvelle campagne de mobilisation aux dons. Après l'été, les réserves ont diminué mais les besoins, eux, ne faiblissent pas. Le FS rappelle que 10 000 dons par jour sont nécessaires pour soigner des malades. Si vous souhaitez donner votre sang, vous pouvez aller sur le site dondusang.net pour connaître le lieu le plus proche de chez vous. Allez, les mécanismes de la faim dans un instant. Speaking Martian style, speaking Martians can't. They just haul around like the fudges on a crow. Cause it's so hard to say, it's so hard to say, it's so hard to say something clever all the way. Speaking Martian style, speaking Martians can't. Soccer Match Speaking Machines.
La tête carrée sur France Inter.
Les mécanismes de la faim et de la satiété aujourd'hui donc dans notre dossier. Mes invités Marie Thirion en studio avec nous à Paris et Benoît Chaland en duplex de Dijon. Marie Thirion, vous êtes médecin, pédiatre et auteur de ce livre « Pourquoi j'ai faim » publié chez Albin Michel. Et Benoît Chaland, vous êtes biologiste du comportement au CNRS, spécialiste des fonctions de l'olfaction chez les nouveau-nés et membre du Centre des sciences du goût de Dijon. Et les auditeurs nous rejoignent avec les messages et les questions sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Vous auriez bien aimé, Marie Thirion, avoir ce titre Biographie de la faim pour ce livre.
Je ne sais pas si j'aurais bien aimé, mais je l'ai trouvé splendide.
Oui, il était pris évidemment par
Amélie
Nothomb.
Quand j'ai lu ce livre d'Amélie Nothomb, je me suis dit, mais quelle merveille de titre.
Oui. Vous avez été très inspirée par ce qu'elle a écrit ?
Disons que ça a déclenché beaucoup de questions en moi, parce qu'elle décrit la faim comme un écrivain peut la décrire, et comme quelqu'un qui a souffert de difficultés alimentaires dans sa vie, dont les parents ont souffert, elle parle très bien de son père, comme d'un martyr alimentaire. Et elle en parle tellement bien que je me suis dit, c'est bien, mais qu'est-ce qui se passe dans le corps ? C'est bien de le décrire comme ça, mais dans le corps, c'est quoi ? Et qu'est-ce que tu sais, toi, de tout ça ? Et puis, je me suis rendu compte que je ne savais rien et qu'il était temps d'aller chercher un petit peu.
Oui, parce que pas beaucoup de chercheurs s'y intéressaient non plus, hein.
Non, c'est un sujet... Vous savez, plus les fonctions sont indispensables à la vie, et moins on les étudie. Mmh. On pourrait dire ça comme ça. Je parle des fonctions classiques, des fonctions de notre quotidien. Je ne parle pas, bien sûr, de la pathologie. Finalement, il y a très peu de choses qui ont été étudiées avant 1950, si on parle de la physiologie des choses simples. Oui. Le sommeil autour de 1950, la sexualité 1970 et la faim depuis les années 2000.
Oui. Benoît Chaland, c'est étonnant quand même, hein, ces recherches très récentes par rapport effectivement à ces autres thèmes de recherche. Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup on s'est réveillé justement pour engager des travaux dans ce domaine de la faim ?
Peut-être un souci plus marqué vers des problématiques de qualité de vie et de bien-être des personnes qui font que des thèmes en apparence banals sont développés de façon un peu plus générale, plus approfondie.
L'épidémie d'obésité aussi a certainement joué un rôle en tout cas important dans le démarrage de ces recherches, Marie Thirion ?
Oui, certainement, comme pour le sommeil, l'épidémie de consommation des somnifères, la consommation tout à fait excessive de médicaments par la population. Tout ça, il y avait des raisons de se mettre à chercher.
Oui. La faim, ça c'est un mot extrêmement fréquent hein, dans le langage courant.
Oh bah, c'est 50 fois par jour.
Voilà, vous répertoriez quelques-unes des expressions, mais... Ça dit quelque chose de l'importance, au fond, hein, de ce mécanisme aussi.
Oui, et les expressions disent vraiment quelque chose de la peur de manquer, de la peur. C'est « je meurs de faim », vous l'avez dit tout à l'heure, « je crève de faim », la dalle, j'ai la dalle. Oui. C'est pas n'importe quelle dalle, hein. C'est la dalle du cimetière qui est pas très loin, celle-là. Et donc, quand on évoque qu'on irait bien manger, et simplement, dans notre corps, normalement, le message est simplement qu'il est temps d'aller à manger, parce que d'habitude, nous avons cette habitude-là. Eh bien, n'empêche que même comme ça, lorsqu'on est bien nourri, surnourri, régulièrement nourri, tout ce qu'on voudra, on continue à utiliser des expressions qui sont des expressions paniquantes.
Ouais, la faim et l'appétit, c'est pas la même chose, hein. Il faut distinguer les deux notions.
Alors, la faim, si on en parle, il faut en parler en termes de corps, en termes d'hormones, en termes de neuromédiateurs, en termes de fonctionnement biologique du corps. L'appétit, c'est quelque chose de tout à fait personnel, tout à fait individuel, qui est le conditionnement créé pendant les premières années, puis après tout au long de la vie, sur la façon dont nous avons petit à petit pris des habitudes de manger de telle ou telle façon. Donc en quantité, en volume, en heure, dans tel ou tel contexte, dans tel ou tel groupe humain, et tout ça fait l'appétit. Oui. Donc c'est vraiment quelque chose de tout à fait personnel et deux personnes n'ont pas le même appétit.
Et ça commence très tôt, Benoît Chaland, alors, justement, dans la vie.
Alors effectivement, l'appétit pour les stimulations associées, pour les aliments et pour les stimulations associées aux aliments, ça commence extrêmement tôt. Puisque le fœtus, déjà dans le ventre de sa mère, manifeste des rythmes d'activité orale qui ne sont pas distribués au hasard et qui sont d'une certaine façon calqués sur les prises alimentaires maternelles. Donc déjà, à ce stade, il y a déjà une ébauche d'un rythme de l'appétit. Et à ce moment-là, l'enfant consomme, inhale et ingurgite du liquide amniotique de façon accrue. Et donc probablement stimule ses systèmes sensoriels et son cerveau.
Et ça, synchronisé sur sa mère.
Oui, c'est relativement synchronisé sur sa mère. Les variations de glycémie maternelle induisent chez le fœtus des variations de consommation par le fœtus de liquide amniotique, mais aussi d'inhalation et d'exhalation, donc de passage par le nez du liquide amniotique.
Oui. Donc ce lien, il est absolument essentiel, évidemment, entre le fœtus, le nouveau-né, le bébé et sa mère.
Absolument. Ce qui fait que le bébé, une fois né, dès qu'il sera réveillé, il va avoir une priorité absolue, c'est de la retrouver. Et donc, à chaque éveil, il va mettre en place un processus qui est son équipement à lui, qui est un processus assez simple finalement, qui est fait de trois choses. Je me réveille, je cherche le lien avec cette mère-là.
Oui.
Alors bien sûr, ça peut ne pas être la mère biologique, mais je cherche le lien avec l'adulte qui aura ce rôle maternant et je mets en place une appétence orale. On appelle ça souvent, ils ont besoin de sucer. Mais en fait, c'est beaucoup plus fort que ça. Dès qu'ils sont réveillés, dès qu'ils se rentrent en lien, ils ont besoin de se remplir de l'autre. Ils ont besoin que la bouche soit pleine, ils ont besoin, bien sûr, que quelque chose en coule le plus souvent possible, mais ils vont se remplir de l'autre parce qu'ils sont réveillés et qu'ils ont trouvé l'autre.
Donc Benoît Chasles, c'est ce que vous expliquiez tout à l'heure, plus que l'aliment, au fond, c'est ce lien avec la mère que le nouveau-né va chercher.
Tout à fait. Il naît déjà avec des attentes et une certaine connaissance de ce qu'il va trouver dans le milieu postnatal et dans les bras de la mère. Mmh. Et il cherche à la fois le lien, les éléments sensoriels du lien avec la mère, qui concernent toutes les modalités des sens, et aussi ce que la mère lui apporte de matière, en particulier de lait.
Alors, Dauphin, sur Twitter, nous envoie ce petit message. Selon le naturopathe que je vais voir, il me dit cette phrase régulièrement, si vous n'avez pas de manque à compenser, vous aurez nettement moins d'appétit. Marie Thirion, justement, on est dans ce domaine aussi des émotions dont on va beaucoup parler avec vous.
Hein. Oui, l'appétit au sens strictement pulsionnel est relativement peu mis en fonctionnement, j'allais dire, dans nos sociétés. La recherche simple d'aliments pour avoir juste la dose nutritionnelle, c'est pas ça.
Mmh.
En fait, on sait que les stimulations sensorielles, d'abord, et plus elles sont riches, plus c'est vrai, et les émotions perturbent ces systèmes. Alors, ça peut les perturber en positif, c'est-à-dire je mange comme quatre, j'ai peur ou je suis heureux, parce que ça peut être dans les deux sens, hein,
mmh.
et on se met à manger comme quatre, ou alors ça peut être dans le sens négatif, je ne mange plus parce que ben, je vis d'amour et d'eau fraîche, ou parce que je suis tellement mal que je peux plus rien avaler.
Mmh.
Vous voyez que la même émotion peut donner des comportements tout à fait opposés.
Oui.
Mais par contre, quand on est en manque de quoi que ce soit, et même quelque chose qu'on ne sait pas, ou qu'on ne repère pas. Et j'aurais presque envie de dire, là encore, il y a toujours l'autre derrière, c'est-à-dire l'autre étant la source d'un plaisir de la rencontre. Effectivement, on mange.
Oui, et on mange ensemble. Hein.
Oui.
Ça aussi, c'est très important.
Oui, oui.
Hein. On ne mange pas seul, en général. Benoît Chasles, sur le rôle des émotions dans ce mécanisme.
Les émotions sont bien sûr des régulateurs extrêmement puissants de l'appétit. À la fois les émotions provoquées par le contact avec l'aliment lui-même. Chaque aliment évoque des souvenirs ou évoque un plaisir actuel, immédiat, mais aussi l'émotion de la situation sociale associée à la prise alimentaire, la convivialité qui stimule fortement l'appétit.
Mmh.
On mange plus lorsqu'on est en groupe que lorsqu'on est seul.
Ouais. Ligue nous dit ceci sur la page Facebook de l'émission. Ma fille de 4 ans, avec un léger rebond adipeux, termine systématiquement ses repas en disant « j'ai faim ». Enjeu psycho-affectif, point d'interrogation. Comment faire pour arrêter ce chantage ? Marie Thirion, là je m'adresse à la pédiatre.
Est-ce qu'on peut dire chantage ? Je ne crois pas. Moi j'aurais envie de dire, cet enfant de 4 ans qui a bien mangé, puisqu'a priori les apports sont non seulement suffisants, mais peut-être même un peu excessifs, ne trouve pas soit dans l'aliment, soit dans la façon dont elle peut le consommer, quelque chose qui lui apporte une satisfaction suffisante. Alors, est-ce qu'elle se sent brimée? Est-ce que elle... je sais pas, est-ce qu'elle avait pris l'habitude d'un volume supérieur dans l'estomac et qu'elle ne le retrouve pas? Donc c'est la densité de l'aliment ou le poids de l'aliment? Est-ce que c'est dans la relation avec les parents aussi, je te fais marcher, je vais te faire croire que... Parce qu'une bonne mère, ça nourrit bien et ça n'arrête pas de nourrir, donc je vais te tester chaque fois. Il peut y avoir plein de choses.
Allez, on se retrouve dans un instant. Beaucoup de messages pour vous, des réactions et des questions sur le site de La Tête au Carré, franceinter.fr. On se retrouve après. Barba Gallo est à côté de toi. Bon après-midi avec nous. Barba Gallo sur France Inter. Pourquoi j'ai faim, ce livre sort chez Albin Michel. Marie Thérion, vous en êtes l'auteur. Et puis on en discute avec Benoît Schall, biologiste du comportement. Et pour illustrer notre sujet, un extrait d'un film, La guerre est déclarée.
Bon, il est en pleine forme, il a du caractère, il est très développé d'un point de vue moteur, ça roule. Vous l'allaitez?
Quand? Ben quand il a faim.
C'est-à-dire?
Ben quand il demande.
Et il demande combien de fois par jour, à peu près?
Je sais pas, une dizaine de fois.
Non, Juliette, soyons honnêtes. Enfin, tu lui donnes à chaque fois qu'il pleure.
Bon. Le problème, c'est qu'on est dans un cercle vicieux. Vous lui donnez le sein tout le temps, sans rythme. En fait, il n'en peut plus de manger. Il est gavé, écœuré. Donc, il pleure. Et vous, vous pensez qu'il a faim. Alors, vous lui redonnez le sein. Imaginez que l'on vous gave comme une oie. Ce sera insupportable.
Marie Thirion, une réaction à cet extrait. Est-ce que c'est un dialogue que vous avez pu avoir avec certaines familles, certaines mamans en particulier ou pas ?
Oui, bien sûr. Mais moi, j'aurais envie de dire qu'il n'y a pas une réaction, il y en a deux. D'abord, le nombre de tétés par jour, là il s'agit du sein,
oui. Hein,
le nombre de tétés par jour et les chiffres que l'on donne traditionnellement chez nous, c'est-à-dire entre 6 et 10 fois, et déjà 10, les pédiatres tordent un peu le nez, c'est culturellement construit. Il y a des quantités de pays, des quantités de régions de la planète où les bébés tètent effectivement 15, 20, 30, 40 fois, personne ne compte. La mère le porte, quand il chouine un peu, quand il couine un peu, elle le bascule vers son sein, il tète. Disons, il prend le sein, il prend, peut-être bien qu'il ne prend pas du lait chaque fois, mais il prend le sein, il se rassure, il se tait, tout va très bien et c'est culturellement admis. Donc ça, c'est ma première réaction. La deuxième réaction sur ce qu'on vient d'entendre, elle est très importante aussi, c'est que je crois que les bébés sont incapables, absolument incapables de faire la différence, je parle des tout petits, entre le besoin de lait, le besoin d'aliments, le besoin de l'autre et un autre type d'inconfort. Quand ils ont mal au ventre, quand ils se tortillent avec ce qu'on appelle les coliques, effectivement, ils ont des appels de faim multiples. C'est très connu chez les bébés dans ce qu'on appelle le pleur du soir. Ils réclament, ils demandent à manger, ils le recrachent, ils vomissent, ils recommencent, ils demandent. Les bébés ne font pas la différence et on n'est pas très sûr qu'ils aient les moyens d'exprimer, je crois qu'on n'est pas sûr du tout, qu'ils aient les moyens d'exprimer, c'est ça que je veux en ce moment, c'est de l'aliment ou c'est de la rencontre. Ou alors j'ai un autre inconfort. Il faut plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour que la mère commence à décoder ça.
Oui, Benoît Chal, une réaction aussi pour compléter les propos de Marie Thirion.
Mais effectivement, je voudrais faire allusion à une étude déjà ancienne des années 80 qui a été réalisée chez les Bushmen d'Afrique du Sud et qui mesurait la fréquence de prise alimentaire des nouveau-nés qui, dans ces populations, sont portés sur le corps de la mère en permanence. Eh bien, il montrait que la prise moyenne, la durée moyenne entre deux prises de lait était de 20 minutes. Ce qui révèle que les enfants sont, comme disait Marie Thirion, en permanence, ont accès au sein et décident eux-mêmes, finalement, plus ou moins de quand ils vont avoir accès au sein.
Oui.
Et à nouveau, la culture l'autorise et l'encourage. C'est la norme.
Et là, on est où alors ? On est dans le domaine du besoin ou du plaisir pour le bébé ?
Alors là aussi, comme dit Marie Thirion, c'est indissociable. Le besoin et le plaisir, la cause et la conséquence, je pense que l'enfant a probablement dans les premiers jours, premières semaines, du mal à la dissocier.
Mmh.
Et les apports de stimulation, de contact, d'être contenu, d'être porté, et les stimulations proprement alimentaires ne sont probablement pas bien dissociées à ce moment-là.
Marie Thirion.
Tout est emboîté.
Moi, je crois que les bébés, je vous l'ai dit tout à l'heure, ont un intense besoin de satisfaction orale. Ça ne veut pas dire gastrique, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas besoin que ça rentre à tous les coups. Mais ils ont besoin de faire bouger leur langue, de faire bouger leur système de déglutition, de faire bouger leur maxillaire. Ils ont besoin que tout ça s'active. Parce que chez l'enfant, le petit enfant, le nourrisson, c'est la source numéro un de plaisir.
Alexandre.
Si on reprend les phases pulsionnelles de Freud, c'est la première, la phase orale.
Alexandra nous dit ceci, les envies de certains aliments sont-elles fonction de nos gènes ou sont-elles le fruit de nos habitudes prises à la naissance ?
J'aimerais mieux que ce soit Benoît Chal qui réponde. Moi, j'ai l'impression que ce n'est pas génétique. Mais je crois qu'on ne le sait pas.
Benoît Chal.
En fait, on ne le sait pas parce que ces orientations préférentielles commencent tellement tôt que c'est dans une phase difficilement observable dans la période fœtale et il est difficile réellement de dire ce qui la part du génétique et la part de l'acquis.
Ouais.
Mais ce qu'on peut peut-être dire, c'est que l'acquis est plus facile à démontrer. Et donc, on a beaucoup plus de données sur les apprentissages alimentaires, même les plus précoces. Très récemment, toutefois, on a des données un peu différentes du domaine alimentaire, mais qui montrent que le mécanisme est possible, que le fait d'exposer des parents ou des grands-parents de souris à un stress intense en même temps qu'une odeur génère deux générations plus tard une réponse de répulsion par rapport à cette odeur chez les souriceaux, alors qu'ils n'ont jamais été exposés à cette odeur. Donc à la première présentation, ils peuvent manifester des réponses d'aversion, bien que cette odeur n'ait jamais été présente dans leur environnement.
Mais dans
donc,
une transmission générationnelle,
alors.
Il peut
aussi y avoir des éléments de transmission entre les générations, tout à fait.
Et peut-être épigénétique.
Oui, alors non, justement,
probablement épigénétique.
Ouais. Comment on explique l'appétence quand même des bébés? C'est ce que vous expliquez, Marie Thirion, quand même globalement, majoritairement, pour le sucré, par exemple.
Je ne sais pas l'expliquer. Je crois qu'on le constate que sur la planète, partout, tous les bébés préfèrent le sucré et n'aiment ni la mer ni l'acide et font des grimaces plutôt si on leur présente ça.
Ouais.
Et d'où ça vient? Est-ce que c'est génétique? Est-ce que c'est transmis par des générations et des générations qui ont appris à se méfier des produits amers? Est-ce que je ne sais pas. On constate que c'est comme ça.
Oui. Benoît Chal, justement, pour revenir sur le besoin et le plaisir, il y a cette publication très récente du CNRS qui montre que, justement, dans le domaine de l'alimentation, il y a cet équilibre fragile entre le besoin et le plaisir, entre deux voies nerveuses. Mais ça a été observé chez la souris, là. Hein, on ne parle pas de l'homme, pour l'instant.
Oui, oui.
C'est des résultats intéressants, non?
Ah, ce sont des résultats qui dissocient bien les deux grands phénomènes d'organisation du comportement alimentaire, les besoins internes, et la recherche de plaisir, les besoins métaboliques et la recherche de plaisir.
Mmh.
Et effectivement, lorsque on modifie génétiquement les souris de façon à affaiblir les neurones qui détectent les besoins internes, eh bien, on met en place le circuit, la commande par le circuit qui génère du plaisir. Et donc, on montre que ce circuit peut être tout à fait important dans l'organisation du comportement alimentaire, et même plus important que le circuit métabolique.
Oui, ce qui est intéressant aussi pour la compréhension des troubles alimentaires, Marie Thirion.
Oui, je crois que si on réfléchit, si on part de cette étude, on peut se dire que dans notre société à l'heure actuelle, nous sommes tous un peu addictifs au deuxième circuit, au circuit de la récompense, au circuit du plaisir. Très peu d'entre nous fonctionnent de façon, j'allais dire, au premier niveau des besoins énergétiques.
Oui.
Nous sommes surstimulés par les aliments. Il y en a partout, il y a des publicités partout, il y a des odeurs partout quand on se promène dans la rue. Et puis, nous sommes aussi dans un système de stress, de déséquilibre, de plein d'autres niveaux qui va dérégler tout ça. Donc je pense qu'on est tous à la recherche de plaisir à travers l'aliment.
Sylvie nous dit ceci, ma fille née prématurée est alimentée pendant 2 mois par sonde de gavage, aujourd'hui 10 ans, et elle n'éprouve jamais la sensation de faim. Est-ce que vous pensez que cette histoire a un lien?
Est-ce que je pense... C'est très compliqué le problème des prématurés et des premières expériences. C'est vrai que on sait que certaines personnes ne ressentent pas du tout les signaux de faim, n'ont aucune notion de ce qu'ils mangent, et la plupart du temps d'ailleurs mangent beaucoup. On retrouve ça chez des très grands obèses, on le retrouve chez les anciens prématurés. Et il semble que c'est lorsque, dans les premières semaines de vie, les premiers mois de vie, il y a eu dissociation entre l'apport de l'aliment, qui lui était adéquat, et la qualité de la relation, du lien à ce moment-là. C'est-à-dire, l'enfant n'a pas trouvé le lien humain qui permettait de... Ça existe aussi en sens inverse, lorsque le lien humain est très bon, mais que pour une raison ou une autre, le lait ne vient pas, ça arrive dans certains allaitements au sein, et dans certains cas où le bébé le recrache, le revomit. Et il peut, c'est tellement pénible d'avoir l'un sans l'autre, c'est-à-dire l'aliment sans le lien ou le lien sans l'aliment, c'est tellement dur dans ces toutes premières expériences que certaines personnes effacent toute sensation de faim. Et on peut le retrouver comme ça, c'est vrai.
Benoît Chal, un message de Jocelyn. Entre appétit et faim, qui veut-il mieux écouter? Notre régime alimentaire de 3 repas par jour est-il donc approprié lors d'une activité physique normale? La fringale est-elle alors psychologique ou physiologique?
Je pense que les deux sont liés. L'activité physique évidemment modifie les paramètres métaboliques du corps et oriente la demande vers un apport de nutriments, mais aussi vers un apport de nutriments souvent chargés en sucre et en graisse énergétiques pour remobiliser une physiologie capable de continuer l'action.
Un témoignage de Sophie justement autour du sucre. J'ai remarqué que si je parviens à me priver de tout aliment sucré pendant 2-3 jours, je n'ai plus aucune compulsion alimentaire, je ne mange que la quantité dont j'ai besoin. Le sucre agit manifestement avec une puissance incroyable sur le cerveau. Marie Thirion ?
Le sucre agit considérablement sur le cerveau. D'ailleurs, la glycémie est directement perçue par le cerveau. Donc il va dire, il y a telle quantité, il va ressentir directement, ça c'est sûr. Mais je crois que par rapport à la question qu'on vient d'entendre, c'est pas une raison pour se priver totalement de sucre. Le corps en a besoin.
Allez, ouais. On se retrouve dans un instant pour poursuivre notre discussion avec d'autres messages pour vous sur franceinter.fr. Here comes the sun.
La tête au carré, Mathieu Vidard.
Marie Thirion, Benoît Chal, nos invités cet après-midi. Et Marie Thirion, pourquoi j'ai faim chez Albin Michel? Revenons, s'il vous plaît, quand même sur ce cerveau crocodile dont on parlait en tout début d'émission. C'est le cerveau profond, inconscient, c'est ça? C'est lui qui pilote, au fond, nos habitudes?
Oui, tout à fait. Le cerveau crocodile, c'est pas un très bon mot, hein, c'est juste pour faire de l'effet. Il ne pilote pas que la faim. Il pilote la température du corps, il pilote les heures et les débits des sécrétions hormonales, il pilote aussi, je sais pas moi, le cycle menstruel chez la femme, il pilote tout, en fait. Mais tout ce qui se pilote tout seul, sur quoi on n'a pas besoin de penser ou de réfléchir. Et donc, il y a dans ce cerveau le centre, les centres de l'appétit et les centres de la satiété. C'est lui qui pilote. Mais il est au fond du cerveau, c'est ce qu'on appelle l'hypothalamus, mais par-dessus, il y a des tas d'autres structures qui peuvent intervenir. Celle des émotions, celle de l'insula qui coordonne tout ça, celle de la conscience, un petit peu, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une toute petite partie de l'iceberg, mais il est quand même régulé par d'autres. Alors, la caractéristique, c'est surtout que c'est un organe qui va prendre des habitudes. Le mot n'est pas tout à fait juste, parce qu'habitude, ça évoque conscient. Il va... On dit plutôt, en recherche, on dit habituation. C'est-à-dire qu'il va fonctionner sur la façon dont il a fonctionné les autres fois. Et ça, au long cours, il va s'organiser pour fonctionner de telle ou telle façon.
Mais ce que disait Benoît Chasles tout à l'heure, c'est qu'il est aussi plastique. Hein. C'est-à-dire qu'il s'adapte à Benoît Chasles facilement, et justement, sur de nouvelles habitudes.
Il s'adapte extrêmement facilement et extrêmement précocement. Et de façon... relativement stable au cours de la vie. Et donc, ce qui fait qu'on a, comme disait Marie Thirion, des habitudes de comportement alimentaire et de façon de traiter ces aliments digestivement qui sont dépendantes d'apprentissage et d'apprentissage pas forcément voulu, mais d'apprentissage par exposition répétée, etc.
Donc c'est lui qui peut nous inciter à manger trois fois par jour, mais effectivement, si on change cette habitude, on aura faim
de façon
différente.
C'est lui qui nous incite, mais on peut avoir faim de façon différente au bout de quelques semaines chez l'adulte.
Ça va vite. Mohamed demande ceci. De quelle manière agit la gléline sur cette hormone qui stimule l'appétit sur l'organisme ?
La gréline.
Gréline, pardon.
Alors, je ne vais pas vous faire un cours complet sur la gréline, mais je peux vous donner deux grands axes. La gréline, elle est sécrétée dans l'estomac lorsque le cerveau envoie le signal « ça serait bien que tu ailles manger ».
Ouais.
Alors, il peut bien l'envoyer uniquement parce que d'habitude, on y va à cette heure-là, hein, soyons bien clairs, ce n'est pas un signal de faim. Donc, il l'envoie et la gréline, comme l'hypersalivation d'ailleurs, qui est aussi l'autre signe de ce signal, la gréline va avoir deux grandes actions. La première, c'est qu'elle va lancer la motricité du tube digestif, en particulier celle de l'estomac. Donc, on va sentir l'estomac qui gargouille, l'estomac qui bouge, parce que il commence à gigoter pour attendre les aliments. Et puis, ça va lancer en dessous aussi, puisqu'il va falloir que les aliments progressent le long du tube digestif. Ça, c'est sa première action. La deuxième action, qui est plus complexe, qu'on connaît bien aussi maintenant, c'est qu'elle va agir sur les réserves, en disant, l'aliment va pas tarder à arriver, je suis en train de lancer l'appel.
Donc le stockage.
Donc, voilà, le stockage
des aliments.
Ça serait bien de vous préparer à stocker.
D'accord.
Préparez-vous à stocker. En d'autres termes, si vous vous affamez, si vous laissez monter beaucoup le taux de gréline, eh bien, vous préparez encore plus le stockage. C'est pas une très bonne idée quand vous voulez ne pas grossir.
Oui. Comment ça fonctionne justement entre la faim, l'appétit et la finalité, la satiété précisément, ces mécanismes, Marie Thirion ?
Alors,
qu'est-ce qui se joue là exactement ?
Il y a deux grands mécanismes. Et vraiment, bon, on peut les séparer artificiellement. En pratique, ça se joue dans le même temps.
Oui.
Le premier mécanisme, c'est le cerveau qui dialogue, qui discute avec le tube digestif. C'est-à-dire qu'il va envoyer un signal. Et si tu allais manger maintenant ? Il est temps d'y aller. Alors, un peu pour des besoins énergétiques, beaucoup pour d'autres raisons, comme on vient de le voir, des raisons d'habitude. Et à ce moment-là, il y a les deux signaux que je viens de vous citer, la salivation et la gréline. Dès que l'aliment rentre dans l'estomac, l'estomac va réagir instantanément par un flash, mais vraiment un flash, un éclair, hein, très court, d'une autre hormone qui s'appelle la leptine, qui, elle aussi, va directement au cerveau. Elle peut passer la barrière hémato-encéphalique et qui va informer le cerveau, ça y est, ça rentre. Pour l'instant, c'est non sélectif. Et puis après, tout au long du tube digestif, il va y avoir une série de circuits hormonaux qui vont envoyer des messages au cerveau. D'abord, l'aliment en rentrant, la glycémie va monter tout de suite. Et si la glycémie monte, le cerveau va savoir que le sucre arrive et que le sucre monte. Ensuite, comme le sucre monte, le pancréas va réagir. Il va envoyer de l'insuline. Le cerveau va capter ce signal que l'insuline a augmenté. Donc, on sait que des sucres sont arrivés et que le corps est prêt à le gérer. L'insuline, c'est fait pour ça. Après, un peu plus bas, au niveau du duodénum, vous avez la cholécystokinine qui, elle, va être sécrétée Bon, elle agit à d'autres niveaux, en particulier cérébral. Mais là, je vous parle du dialogue tube digestif. Elle va être sécrétée en pourcentage des graisses qui arrivent, et en particulier des bonnes graisses. Elle va dire, oh, il y a des bonnes graisses qui passent. Vous savez, les oméga 3, les longues chaînes, etc. Donc, il y a des graisses qui passent. Et puis après la digestion, quand les aliments, les protidiques, sont réduits en acides aminés, ils vont être captés par la veine porte pour aller vers le foie, puisque c'est le foie qui récupère tout ça. Et dans la veine porte, il y a encore des petits récepteurs opioïdes qui vont dire « Oh, j'ai vu passer des protéines, j'ai vu passer des peptides protidiques ». Donc, le cerveau sait que tout est passé.
Donc, il y a ces éléments en cascade qui sont enclenchés. Et donc, à la fin, au fond, il y a un signal qui nous dit bah, « Ça y est, on a assez mangé ». On a le stock nécessaire pour assurer nos besoins ?
À la fin, le cerveau va dire « c'était bien comme d'habitude ». Il y avait ce qu'il fallait en qualité, il y avait ce qu'il fallait en quantité, donc je suis content. Mais ça peut être beaucoup trop.
Oui.
Ça peut ne pas être assez, c'est très rare, mais ça peut être beaucoup trop. Donc ça, c'est ce qui se passe entre chaque repas. Et les hormones de la satisfaction vont... C'est ce que l'on appelle le circuit de la récompense, sont des hormones qui ont une action relativement brève dans le corps, qui sont de l'ordre de 2, 3, 4 heures. Donc toutes les 4 heures, on a envie de recommencer. Ça explique bien des choses, ce circuit de la récompense. Donc ça, c'est le premier circuit, c'est le circuit court d'un repas à l'autre. Et puis vous avez le circuit long, et là c'est beaucoup plus complexe, mais on le connaît bien, c'est le circuit de comment manger assez pour maintenir le corps dans l'état où il est. Et quand je dis le corps, c'est d'abord et avant tout les systèmes de réserve. Le foie veut être plein de glycogène, et le tissu graisseux ne veut surtout pas perdre une partie de ses stocks. Donc le grand chef d'orchestre de tout ça, ce qui va régler, c'est le tissu graisseux lui-même. Le tissu graisseux envoie dans le sang absolument en permanence de la leptine, alors la même que tout à l'heure, mais là c'est tout le temps. Tout à l'heure je vous avais dit un éclair. Là c'est tout le temps, et il l'envoie en quantité strictement proportionnelle à son volume. Ça veut dire que si on maigrit, la leptine baisse, si on grossit, la leptine monte. Et à ce moment-là, le cerveau l'entend en disant « ça monte, diminuons les appels alimentaires, ça baisse, il faut les augmenter ».
Bon, horloge de précision, hein,
horloge
en tout cas,
de précision.
D'après ce que vous nous décrivez. Une question d'Élie sur Facebook, Benoît Chal, comment expliquer les envies alimentaires parfois très différentes des habituelles chez la femme enceinte ?
Oh là là, alors là, il y a de nombreuses explications, effectivement, ces envies alimentaires qui existent de façon plus marquée au cours du premier début du deuxième trimestre de grossesse. Et une des explications est d'ordre hormonal, disant que la mise en place du placenta génère des demandes particulières au corps et modifie les besoins et donc aussi les motivations alimentaires de la femme enceinte. Et une autre théorie est plus évolutive et suggère que pendant cette période, la femme et surtout le fœtus seraient fixés encore de façon fragile dans le nid utérin. Et donc les capacités sensorielles et les préférences de la femme se modifieraient, en particulier pour rejeter des aliments potentiellement abortifs. En particulier des aliments amers, des aliments liés à du café, les fritures sont rejetées, les herbes à forte odeur, etc. Et donc, il y a cette hypothèse de préservation du fœtus à travers le comportement maternel.
Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux, Marie Thirion. En finir également avec la peur de manquer pour retrouver un équilibre alimentaire. On va vous en parler abondamment dans ce livre. Pourquoi j'ai faim? C'est aux éditions Albin Michel, jusqu'aux folies des régimes. On en avait parlé avec vous d'ailleurs juste avant l'été. Merci également à vous, Benoît Chal, et aux équipes de France Bleu à Dijon qui nous ont permis de réaliser cette interview.